Permettez-moi de vous entraîner au mois d'octobre 1873, dans la rue des Écoles, à l'angle de la rue Jean de Beauvais, en face du Collège de France, et par conséquent, à deux pas de la Sorbonne. À heure fixe, cinq petits garçons encombraient le trottoir, se bagarrant ou jouant aux billes, sous l'œil d'un mentor à barbe blonde, redingote et gibus. Derrière eux, sur le pan coupé de l'immeuble d'angle, s'ouvrait une boutique, occupant tout le rez-de-chaussée, et au-dessus de la porte, une enseigne indiquait « Institution alsacienne ». Octobre 1873. C'était donc quelques jours après l'évacuation des troupes d'occupation prussiennes. Après les malheurs de la guerre et l'annexion de l'Alsace, quelques esprits généreux avaient rêvé d'ouvrir à Paris un grand établissement où les familles alsaciennes pourraient faire poursuivre à leurs garçons, je dis à leurs garçons parce que la mixité à l'époque n'était pas concevable, une scolarité française mais en respectant la ligne d'une pédagogie qu'elles avaient pratiquée et appréciée en Alsace et qui se trouvait très différente des conceptions de l'enseignement traditionnel. Je cite « À la base, un esprit de tolérance et de liberté, hostile à toute tyrannie spirituelle. Au centre, une culture nourrie de sagesse et d'éloquence antique, faisant également leur place aux sciences, aux mathématiques, à la musique, sans négliger l'éducation physique. Et au sommet, une piété agissante. Tels sont les éléments essentiels de ce qu'on a appelé « humanitas alsatica », également éloigné de la légèreté brillante de l'humanisme italien que de l'étroite orthodoxie saxonne. Malheureusement, ce projet, conçu dans des proportions trop vastes, n'avait pas pu se réaliser. Quelques pères de famille, il s'agissait de plusieurs hommes de science, s'étaient alors réunis et avaient résolu de créer, dans l'esprit du projet, une petite classe destinée à leurs enfants âgés de 8 à 10 ans. Et à la rentrée d'octobre 1873, cinq bambins étaient présents, col blanc, régate, gibecière, accompagnés gravement par leur père. L'instituteur alsacien, Édouard Brunig, allait s'employer à exécuter la mission dont il se voyait honoré, avec l'engagement et la fierté d'un éducateur et d'un patriote. Au bout de quelques jours, le chiffre des élèves doublera, puis triplera. Et à la fin de l'année scolaire, l'âge et le degré d'avancement de plusieurs élèves exigèrent que l'institution se transforme en établissement d'enseignement primaire et secondaire. On reparla alors du fameux collège qui n'avait pas vu le jour. Ainsi, avec des ambitions plus modestes, sera juridiquement créé pour la rentrée de 1874 la société anonyme de l'école alsacienne, constituée grâce au mécénat, et implantée dans une sorte d'oasis de verdure au 86 actuel de la rue d'Assas. À Frédéric Brunig, l'instituteur, était associé comme directeur un universitaire de grand mérite, Frédéric Rieder, ancien élève de l'école normale supérieure, qui, pour échapper à l'annexion allemande, avait quitté son poste du lycée de Strasbourg. Le jour de l'ouverture de l'école, le 3 octobre 1874, 18 élèves s'étaient présentés. En décembre, ils seront près de 50, répartis en deux sections, la section secondaire et la section primaire. La pédagogie de l'école fut immédiatement placée sous le contrôle d'un comité d'études, composé de personnalités illustres, membres de l'Institut, professeurs au Collège de France, à l'École normale supérieure, à la Sorbonne, au Muséum ou à la Faculté de médecine. Les années suivantes, le chiffre des élèves montera successivement à 80, à 120, à 190. Une classe nouvelle étant ajoutée chaque année à la section secondaire jusqu'à la philosophie. Le premier professeur de cette discipline n'étant autre que Paul Bourget, le futur auteur du Disciple. Des succès satisfaisants au baccalauréat allaient alors couronner l'entreprise. D'abord 5 succès sur 6, puis 11 sur 12, puis 18 sur 22. Ainsi déclarait Rieder, nous prouvons aux familles et à nous-mêmes que tout en suivant une méthode originale, nous n'avons pas fait fausse route, hein, puisque la préparation générale qu'ont reçue nos élèves leur a suffi pour réussir et que plusieurs d'entre eux ont même mérité la distinction assez rare d'une lettre de félicitations de la faculté. En même temps que l'enseignement se développait, les locaux devenaient trop étroits. Dès 1876, il fallut séparer les deux sections, les classes primaires demeurant sur place, et la section secondaire, trouvant à se loger dans une belle propriété voisine, toujours rue d'Assas, au 92. Un jour, quelque chose comme une bombe éclatera. Sur les hôtes de ces lieux, on apprendra que Jules Ferry avait décidé de rendre visite à l'école alsacienne. Alors un peu d'histoire maintenant. Parmi les premiers actionnaires dont l'adhésion avait été sollicitée pour la fondation de l'école, se trouvait William Waddington, personnalité de premier plan, qui avait notamment participé à la création de l'école des hautes études, où enseignaient plusieurs des fondateurs de l'école alsacienne. Waddington était le fils de l'industriel anglais établi en France et il avait acquis la nationalité française. Il avait été appelé à siéger à l'Institut en qualité d'archéologue, alors qu'il n'avait pas 40 ans. Puis il s'était lancé dans la politique après la guerre et avait été élu en 1871 député de centre-gauche à l'Assemblée de Versailles. Il devait faire partie du premier gouvernement de MacMahon, où il se voyait confier le portefeuille de l'instruction publique. C'était en mai 1873, c'est-à-dire au début de l'histoire de l'école alsacienne. Et le cabinet résista un an, jusqu'en mai 1874. Devenu sénateur en 1876, Waddington va revenir au pouvoir en 1877, toujours au fauteuil de l'instruction publique. Ce cabinet tiendra 7 mois, mais le gouvernement suivant gardera Waddington, cette fois aux affaires étrangères, un poste capital. C'est ainsi qu'un Anglais, naturalisé, représentera la France au Congrès de Berlin, réuni autour des dramatiques problèmes des Balkans. Depuis son élection en mai 1873, le maréchal président de MacMahon avait eu affaire à un chassé-croisé d'influences irréductibles, concrétisé par la coexistence dont nous connaissons aujourd'hui des répliques fort atténuées, d'une Chambre des députés républicaine et d'un Sénat très conservateur. Les campagnes électorales sont l'occasion de heurts passionnés. Il faudra se soumettre ou se démettre, tonne Gambetta à travers le pays. Le maréchal se démettra le 30 janvier 1877. On s'attend à ce que le nouveau président Jules Grévy appelle à la direction du gouvernement le leader de l'opposition, Gambetta, qui a été élu président de la Chambre. Il n'en est rien. Le prestige de Gambetta risque de porter ombrage à celui du chef de l'État. Grévy préfère se tourner vers un homme considéré mais sans éclat excessif. Il choisit le ministre des Affaires étrangères du précédent gouvernement, William Waddington, dont il n'aura pas à redouter le tempérament, gris-perle, disait-on, comme son pantalon. Or voilà que Waddington va faire appel pour gérer le très épineux département des âmes, l'instruction publique, et cela en contradiction flagrante avec les plus fortes pressions issues de l'ordre moral, à un zélateur passionné de la République, libre penseur, franc-maçon et certes anticlérical notoire, mais dont il sait qu'il pourra être l'homme d'État apte à doter la nation d'une véritable charte de l'éducation, Jules Ferry. C'est sous la présidence de Waddington que Ferry déposera le 15 mars 1877 deux projets de loi visant à démanteler la citadelle cléricale élevée par la loi Fallou de 1830 et qui vont provoquer une immédiate levée de boucliers dans les milieux conservateurs. Les membres du clergé sont exclus du Conseil supérieur de l'instruction publique. Les universités d'État se voient restituer le monopole de la collation des grades universitaires. L'article 7 de ce dernier projet vise spécialement la toute-puissante Compagnie de Jésus. Nul n'est admis à diriger un établissement d'enseignement public ou privé, de quelque sorte qu'il soit, ni à y donner d'enseignement s'il appartient à une congrégation non autorisée. Et il est prévu qu'aucun jésuite ne recevra cette autorisation. Les sciences de la Chambre tourne en autant de pugilat, le battant de la clochette du président Gambetta traverse les airs, peu s'en faut que son œil de verre ne suive la même trajectoire. Le 10 juillet, l'article 7 est finalement adopté par les députés. Il respecte la liberté de l'enseignement, reconnaît la possibilité d'existence d'un enseignement privé, mais établit définitivement la laïcité de l'enseignement public français. Un établissement privé, non confessionnel, mais en même temps non subversif, qui prétendait mettre en œuvre tant de réformes prônées par les plus sérieux détracteurs du système universitaire en vigueur, ça avait été pour Waddington, ministre de l'Instruction publique, un pertinent objet de curiosité. L'école alsacienne, écrivait Francisque Sarcin, dès 1875, est le lycée modèle de l'université de demain. D'éminents savants, portant témoignage de l'exemplarité de cette jeune école, on conçoit que Waddington, président, ait parlé de cette expérience à laquelle il s'honorait de participer par un apport financier au Vosgien Ferry et avait ainsi convaincu son ministre d'aller s'informer sur le terrain. Ferry se présenta donc à la petite porte de 92 rue d'Assas, entouré des principaux directeurs de son ministère. Le sous-directeur de la section classique, Édouard Marty, eut l'honneur de recevoir la brillante délégation et de la conduire au cabinet du directeur. Aucune manifestation ne les attendait, a raconté Marty, ainsi l'avait désiré notre visiteur. Il tenait à nous voir dans notre vie de tous les jours. Avec la plus grande cordialité, il vint s'asseoir dans chacune de nos classes, écoutant les professeurs et interrogeant lui-même les élèves. Tel ancien élève se rappelle que dans la cour, un grand monsieur le saisit familièrement, lui petit dixième, le plaça sur le perron, le fit causer en bon papa et lui demanda de réciter ce qu'il savait le mieux. Ce visiteur était Jules Ferry. Il nous accorda les éloges les plus flatteurs et il voulut bien dire à notre directeur à quelque temps de là qu'il avait beaucoup puisé chez nous pour le régime nouveau. L'université vous suivra, avait-il dit. Vous serez comme une avant-garde. Ce qui a particulièrement intéressé le ministre, devait noter le directeur Rieder, ce sont les explications latines de nos élèves de 5e et de 4e. Il y a vu la preuve quand l'école alsacienne, contrairement aux dispositions en usage, avait renoncé à l'enseignement des langues anciennes dans les classes primaires. Il y a vu la preuve qu'il est possible d'arriver à l'intelligence du latin sans qu'il soit nécessaire d'en commencer l'étude aussitôt que l'exige la tradition universitaire. C'est là une observation importante et qui ne sera sans doute pas sans influence sur les résolutions qui vont être prises en vue de la réforme de l'enseignement secondaire. La visite du ministre déclencha toute une série d'enquêtes officielles et minutieuses, selon les mots de Rieder, provoquées par l'inspection académique. L'inspecteur d'académie, pendant une semaine, va se présenter tous les jours à l'école. Il nous a exprimé à plusieurs reprises sa satisfaction, dira Rieder, et nous avons tout lieu de croire que plus d'une observation faite chez nous pourra devenir le germe d'une utile réforme à introduire dans les programmes officiels. l'inspecteur avait tout particulièrement porté son attention sur l'enseignement primaire. De son côté, la Société pour l'étude des questions d'enseignement secondaire chargeait deux de ses membres de s'informer de la manière dont l'école alsacienne traitait les sciences naturelles, et les deux émissaires suivirent le cursus complet de cette discipline des plus petites classes jusqu'à la dernière. Les résultats obtenus, constatera Rieder, ont paru satisfaire les deux délégués, et sur ce point encore, l'expérience faite chez nous pourra fournir d'utiles indications. Le fait est que la dite société allait nommer Rieder membre de son conseil d'administration et lui donner ainsi l'occasion, je cite, de fournir des renseignements sur la solution pratique tentée à l'école alsacienne de la plupart des questions soumises à la discussion des différents groupes entre lesquels s'est partagée la société. La question scolaire, liée intimement aux problèmes politiques et religieux, n'a cessé de prendre une place de plus en plus considérable parmi les préoccupations des Français de l'époque. La presse, qui lui consacre de larges colonnes, a découvert l'école alsacienne. Son nom se trouve cité dans la plupart des articles de journaux qui traitent des questions pédagogiques à l'ordre du jour. Surtout, lorsque Ferry, à la tribune du Sénat, se plaît à rendre à l'école alsacienne un éclatant témoignage et qu'il confirme sa satisfaction en élevant Frédéric Rieder au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Distinction, déclarera le rougissant légionnaire, qui s'adressait sans doute à l'école plutôt qu'à la personne du directeur. Dans le cabinet ministériel qui succédera à Waddington, Jules Ferry conservera le ministère de l'Instruction publique. 9 mois plus tard, il deviendra lui-même président du Conseil. Mais pour parachever l'œuvre scolaire, il s'attribuera le portefeuille de l'instruction publique. Après un court intermède du gouvernement Gambetta, il sera de rechef en janvier 1882 et pendant 7 mois au même département dans un nouveau cabinet. Éclipse de 6 mois et en février 1883, le voilà à la tête d'un second gouvernement Ferry qui, au miracle, durera 25 mois sur lesquels Ferry en passera 6 à l'instruction publique, ce qui fait qu'entre 1879 et 1885, il aura consacré quelque 50 mois à ce ministère, donc à la réforme universitaire. L'essentiel de la réforme, outre la laïcité de l'enseignement d'État, à l'enseignement religieux que professaient jusque-là à l'intérieur de l'emploi du temps tous les maîtres publics et privés, croyants ou non, était substitué dans les écoles publiques un enseignement civique et moral, la journée du jeudi étant libérée pour permettre à l'extérieur de l'école et sans obligation l'instruction religieuse. Donc, outre l'institution de la laïcité, c'était la gratuité de l'enseignement primaire à l'école publique et le caractère obligatoire des études primaires. Quant à la rénovation des programmes et des méthodes, Rieder pouvait à bon droit observer dès le 25 juillet 1880, devant son conseil d'administration et son comité d'études réunis, « Aujourd'hui, nos efforts ont reçu la consécration la plus haute. Les recherches des esprits les plus éminents qui puissent s'occuper de ces matières, la discussion approfondie entre les juges les plus compétents, ont amené l'introduction dans l'université de méthodes et de programmes tout à fait analogues aux nôtres. » Vous pouvez donc vous dire, messieurs, que vous avez atteint le but généreux et désintéressé que vous aviez en vue en fondant l'école alsacienne. Vous avez préparé la diffusion et l'adoption pour tous des idées qui ont présidé à son établissement. Or, devait également constater Rieder, la place dont nous disposions dans les deux locaux de la rue d'Assas était devenue tout à fait insuffisante. L'enseignement de certaines matières ne pouvait se faire qu'à l'aide de prodiges d'habileté et de dévouement de la part des professeurs. La nécessité d'une construction nouvelle s'imposait impérieusement. Moins de 200 élèves, une trésorerie d'une extraordinaire fragilité. Et les besoins d'extension sont imminents. Or, un terrain à usage de chantier est situé au 109 rue Notre-Dame-des-Champs, la rue parallèle à la rue d'Assas. Sa superficie est de 3000 m² environ. L'entrepreneur qui en est propriétaire est prêt à le céder. D'autre part, la propriété jouxtant ce terrain du côté de la rue d'Assas, exactement au numéro 128, serait également à vendre. Sa superficie est de 640 m². Estimation du coût, 175 000 francs pour la rue Notre-Dame-des-Champs, 160 000 francs pour la rue d'Assas, 420 000 francs pour la construction, y compris la consolidation du sous-sol utilisé comme carrière depuis l'époque gallo-romaine, 100 000 francs pour l'installation et les imprévus, total 860 000 francs. Il faut multiplier au moins par 10 pour déterminer le prix en francs actuels. 860 000 francs multiplié par 10. Eh bien, le conseil décide l'achat. Ses membres se font fort de réunir la somme nécessaire. L'école alsacienne se trouvait ainsi définitivement fondée. Voici en quels termes sont présentés les nouveaux bâtiments de l'école lors de la publication du projet de l'architecte Émile Auburtin dans l'Encyclopédie d'architecture. L'école alsacienne est l'une des rares constructions scolaires exécutées aujourd'hui qui sont en conformité avec les prescriptions nouvelles. Nous ne pouvons que féliciter l'architecte qui, l'un des premiers, a su appliquer à une construction scolaire les idées nouvelles, éminemment progressistes, qui jusqu'alors étaient à peu près restées dans le domaine théorique. La valeur d'exemple accordée au projet est confirmée par deux autres publications et par une médaille obtenue lors du Salon d'architecture de 1883. Dans son projet, M. Auburtin a montré ses talents de dessinateur et de constructeur. Il a tiré un excellent parti du terrain qui lui était assigné et sans luxe inutile, il a su, par l'emploi judicieux et sage, de matériaux très simples et par conséquent peu coûteux, donner à son école le caractère qui convient à ce genre d'établissement. On souligne également que la norme a été rigoureusement et intelligemment appliquée, tant au plan dimensionnel que sur les questions de l'éclairage et de l'orientation. Le 9 juin 1881, à 1h de l'après-midi, aura lieu l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'école alsacienne. La presse constatera, je cite, que leur aspect diffère de celui des autres établissements d'instruction. Cette différence résulte du système d'éducation adopté par l'école alsacienne. Tout d'abord, l'absence de dortoir avertit que l'internat proprement dit est inconnu dans la maison. D'autre part, un vaste amphithéâtre de sciences, un beau laboratoire de chimie pour les manipulations des élèves, un cabinet de physique et d'histoire naturelle, une bibliothèque d'un accès facile, une belle salle de dessin, un grand gymnase muni de tous ses agrès, montrent la place importante qui est accordée aux sciences, aux exercices qui développent le goût et à ceux qui assouplissent et fortifient le corps. Les bâtiments destinés à l'enseignement sont séparés du bruit des deux rues par deux maisons d'habitation, accompagnées chacune d'un jardin, l'une est destinée au directeur de l'école, l'autre au sous-directeur. Là, les élèves dont les parents habitent au loin trouveront une chambre et une place au foyer familial. C'est là également que les demi-pensionnaires viendront s'asseoir chaque jour à la table de famille. Ajoutons que les mêmes avantages existent chez un certain nombre de professeurs qui habitent aux environs, dans des maisons louées par l'école et entourées aussi de jardins. Trois cours de récréation sont séparés par deux corps de bâtiments occupés par les classes. L'un comprend la section élémentaire, les classes primaires, le dessin, la bibliothèque et les sciences. L'autre, la section classique, les classes secondaires. Un système complet d'abris couverts permet aux élèves de jouer en plein air, même par la pluie, et aux maîtres de circuler par tous les temps dans l'école. L'aspect général est gai et hospitalier. Les classes vastes et hautes possèdent à la fois de larges baies pour le passage de la lumière, des placards vitrés pour les livres et de grands espaces de parois pleines pour les cartes et les 1000 objets qui peuvent servir à l'enseignement par les yeux. Ces avantages sont surtout appréciables pour les classes des plus jeunes enfants. L'école alsacienne, bien qu'installée dans des locaux plus vastes que les maisons dans lesquelles elle a vécu jusqu'ici, a tenu à conserver le caractère de sa discipline. Grâce à la disposition des classes, et sans qu'il ait été nécessaire de recourir au maître d'études, la surveillance s'y fait facilement, sans peser sur les élèves. Ils se sentent constamment sous les yeux de leur maître, sans être inquiétés ni persécutés. La fête du 9 juin a présenté elle-même ce caractère de simplicité et de confiance mutuelle qui règnera toujours, nous l'espérons, à l'école alsacienne. Les élèves des classes supérieures et tous les anciens élèves étaient venus se joindre à leurs professeurs pour faire à leurs parents et à leurs amis les honneurs de leur nouvelle maison. La cour centrale, couverte d'une tente et décorée pour la circonstance, s'est vite remplie d'une assistance nombreuse et sympathique, et l'estrade, au-dessus de laquelle on remarquait les armes de Strasbourg et de Metz, était occupée par les fondateurs et par un grand nombre de personnalités amies de l'école, tous autour de M. Paul Bert, qui avait bien voulu accepter la présidence de la solennité. Monsieur Parent, président du conseil d'administration, prit d'abord la parole, puis Monsieur Rider, directeur, lut un exposé de la situation de l'école, et enfin Monsieur Paul Bert prononça un remarquable discours. N'oublions pas de mentionner la participation de l'excellente musique du 76e de ligne qui a donné un grand attrait à la fête. Donc Paul Bert avait accepté de présider la solennité. En 1881, Paul Bert, député radical de Lyon, est le collaborateur le plus direct de Jules Ferry. On peut considérer que dans son discours à l'école alsacienne, il sera, tout en étant lui-même, un écho du président du Conseil. Illustre savant, patriote notoire, ardent partisan de la laïcité, il se verra chargé du portefeuille de l'instruction publique dans le futur ministère Gambetta. Et que Paul Bert soit l'un des orateurs les plus réputés de la Chambre, on en jugera par quelques extraits de son discours improvisé. Il commence, comme on fait souvent, par justifier sa présidence. « J'ai cru deviner, dit-il, que les responsables de l'école préféraient que la vérité fût dite sur votre œuvre par quelqu'un qui n'y eût pas participé, et que ce ne fût pas un des triomphateurs, mais un simple spectateur, qui chanta la victoire. J'ai cru comprendre en outre qu'il n'était pas fâché qu'un homme public, qui a défendu avec toute l'énergie dont il est capable les droits de l'État en matière d'enseignement, vint rendre hommage aux expériences efficaces, exemplaires, probatoires, tentées et réussies par un établissement libre. Et cet hommage, je suis heureux de vous le rendre comme homme public d'abord, ensuite, comme membre et comme défenseur de l'enseignement de l'État de notre grande université. Au lendemain de nos désastres, vous avez voulu rejoindre les deux parties de cette France séparées par une opération sanglante. Vous avez voulu recueillir les enfants qu'avait chassé l'orage, offrir un nid à ceux qui chantaient jadis sur leurs rameaux brisés. Aux triomphateurs qui croient qu'il suffit de tracer sur la carte d'une main victorieuse une ligne jalonnée de sentinelles et de forteresses pour changer les cœurs et faire oublier la patrie, vous avez répondu en créant cet asile où des exilés volontaires entretiennent et attisent un feu sacré et d'où vos regards, lorsqu'ils quittent le livre, se tourne tout d'abord du côté de l'Orient. Et il est arrivé, chose merveilleuse, qu'en faisant œuvre de patriote, vous avez fait œuvre de pédagogue. Car cette école alsacienne, dont l'exemple a été de tant de poids pour déterminer la réforme de notre enseignement, elle a pris précisément pour modèle votre vieux gymnase libre de Strasbourg, si bien que notre chère Alsace, ne pouvant plus nous donner son sang ni sa richesse, nous donne encore sa pensée et son exemple. Oui, Vous avez fait œuvre de pédagogue, et avec quelle utilité, quelle efficacité. Ah, l'université a besoin d'établissements semblables aux vôtres. Vous n'êtes pas des concurrents, vous êtes des auxiliaires de l'université, faisant pour elle des expériences qu'elle ne peut, peut-être ne doit pas tenter elle-même. L'université est comparable à un vaisseau de haut bord, portant sous pavillon tricolore l'avenir et l'honneur de la patrie. Quand il s'agit de manœuvrer parmi les hauts fonds et les récifs des méthodes nouvelles, elle ne saurait s'aventurer car elle tire beaucoup d'eau et la responsabilité du commandant est trop grande. Elle a besoin de bateaux pilotes légers et calant peu, qui peuvent aller partout, tâtant et jetant la sonde, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé le chenal navigable où peut s'engager la grande nef. Voilà l'office que vous avez fait, vous pouvez le dire avec orgueil. L'université vous a suivi, mais votre voyage n'est pas terminé. Vos découvertes ne sont pas finies, vous n'êtes pas au bout de vos progrès, et vous cherchez encore, et vous trouverez encore, et vous chercherez toujours. Paul Bert faisait ensuite un inventaire élogieux des réformes que l'école alsacienne avait initiées, concernant les différentes matières du programme à chacun des niveaux. Puis il poursuivait. Il est un problème pédagogique que vous avez résolu avec trop de succès pour que je ne vous en félicite pas spécialement du fond du cœur. Je veux parler de vos relations avec vos élèves, de votre discipline et de ses conséquences, vos récompenses et vos punitions. Ici, vous êtes bien en avant de l'université. Et je ne sais vraiment pas quand elle vous suivra. Et cependant, qu'avez-vous donc fait, sinon, introduit la méthode scientifique dans la discipline, à la place de l'empirisme dogmatique, à l'absolu, qui s'impose par l'autorité devant lequel l'élève se courbe souvent avec de secrètes révoltes, vous avez substitué le relatif qui démontre et se fait accepter par la raison. Votre discipline est fondée non sur la crainte du maître ou l'obéissance passive à la règle édictée, mais sur le culte du devoir, le respect de soi-même, le sentiment de la responsabilité et de la solidarité, la salutaire préoccupation du jugement des hommes sages. Et vous avez eu raison, car le maître passe, la règle s'efface, mais le souci de la dignité personnelle ne disparaîtra pas. Aussi, plus de punitions barbares et ridicules, plus de retenues, de piquets, de pince-hommes, la suppression des bonnes notes, la réprimande du directeur, accentuée s'il est nécessaire dans la famille, qui se confond ainsi avec l'école, l'exclusion temporaire, enfin, le renvoi pour les incorrigibles. Voilà votre hiérarchie pénitentiaire, et l'expérience a prouvé combien elle est efficace, car vous n'avez eu que bien rarement recours à l'éventualité dernière. Mais ce que j'admire le plus dans tout ceci, ce sont vos récompenses. Plus de concours, plus de prix. Dans cette France où l'éducation publique semble prendre à plaisir de cultiver et de développer nos défauts naturels, vous avez eu les premiers le courage de supprimer cet appareil vaniteux et sonore. Vous ne vous livrez pas à la fabrication de ces petits monstres scolaires, habiles à acquérir le prix de vers latin ou de thème grec, et incapables en toute autre matière. Chez vous, le héros, au jour des récompenses, ne sera pas celui qu'auront favorisé des qualités brillantes ou des hasards heureux. Les dons spontanés de la nature ne suffisent pas, et il faut encore l'assiduité au devoir quotidien. L'ensemble des notes s'applique à toutes les branches du savoir, à tous les incidents de la vie scolaire. Vous ne vous efforcez pas d'établir une hiérarchie, trop souvent illusoire, parfois injuste, toujours puérile. Et quand arrive le jour du jugement public, vous dites, avec une simplicité qui a sa grandeur, « Ceux-ci ont très bien fait. Ceux-ci ont bien, ceux-ci ont assez bien fait. » Leur devoir. Et vous atteignez ainsi un double résultat. D'abord, vous n'habituez pas l'enfant à croire qu'il suffit d'une rencontre heureuse, d'un effort passager, d'un succès d'un jour, pour mériter d'être honoré entre tous, mais vous lui enseignez qu'il faut l'action suivie et persistante, le bon vouloir et le bon agir de tous les instants. Je demande à tout esprit sincère, laquelle des méthodes est la plus juste, laquelle est la plus propre à former des citoyens laborieux et joyeusement serviteurs de la loi, laquelle constituera une société où le vrai mérite, où la vertu, pour prendre un mot qui a vieilli, conquérera le plus sûrement sa place. En même temps, vous avez fait autre chose. Chez vous, l'enfant laborieux ne se sent pas comme ailleurs fatalement dépassé par l'élève brillant. Il sait que son mérite sera mesuré en partie à la peine qu'il se donne. Il sent qu'il est traité suivant la justice. Il ne se croit plus abandonné. Il s'efforce, il arrive. De là, comme aussi sans doute de votre discipline basée sur la raison, de là résulte, je pense, cette allure joyeuse, cet air de gaieté et de santé de l'âme que j'ai si souvent constaté et admiré chez vos jeunes enfants. Hélas, j'ai vu tant d'écoles où l'on s'ennuie, mais la vôtre est là pour montrer que le bonheur vient du sentiment de la dignité se développant au sein de la liberté et sous l'égide de la justice. J'aurais aimé encore insister sur ce grand fait que vous, parmi lesquels on peut compter, je le sais, tant d'âmes profondément religieuses, pieuses même, vous avez été les premiers à éloigner résolument et entièrement de votre école l'enseignement religieux. Vous avez laissé à chacun son rôle, sa compétence, sa responsabilité, aux professeurs laïcs les vérités scientifiques et démontrables, aux prêtres celles où la foi devient nécessaire. Et cette laïcisation que nous réclamons pour les écoles de l'État, vous n'y avez vu comme nous qu'une marque de respect pour la liberté de conscience et la sincérité des croyances. Je voudrais que les hommes honnêtes et convaincus qui, à quelques pas d'ici, dans la salle dorée du Luxembourg, se sentent anxieux et hésitent à voter la loi si sage et si libérale déjà adoptée par la Chambre, vinssent visiter votre école, interroger vos élèves et surtout leurs parents. Je voudrais que ma voix ait assez de force pour traverser l'espace, les adjurer de ne pas écouter les bruyantes protestations où les convictions religieuses sont pour peu de choses et d'apprécier à sa haute valeur l'expérience faite par l'école alsacienne. J'arrête ici mes citations. En février 1882, l'ensemble de la réforme était voté par le Parlement. Le directeur Frédéric Rieder pouvait alors développer, devant les membres de son conseil et du comité d'études, un sentiment d'autosatisfaction dont personne, je pense, n'aurait osé lui tenir rigueur. Malgré quelques difficultés que nous aurons sans doute encore à traverser, déclara-t-il, nous avons le droit aussi de considérer l'avenir avec confiance. Les appuis qui nous ont soutenus jusqu'ici ne nous feront pas défaut et nous tâcherons de notre côté de justifier toujours la confiance qu'a inspirée notre méthode d'enseignement et d'éducation. Les réformes entreprises et accomplies par l'école alsacienne dans le cadre modeste où nous les avons tentées n'ont pas été sans exercer quelque action sur le grand mouvement qui a fini par amener en France une rénovation si complète de l'enseignement à tous ses degrés. Elles ont réalisé et devancé même sur quelques points, sans bruit et simplement, mais d'une manière efficace, presque toutes les idées de progrès qui ont été énoncées dans les principaux ouvrages publiés dans ces dernières années sur l'enseignement secondaire. Elles sont d'accord avec la plupart des règles posées par le Conseil supérieur de l'instruction publique pour servir de base au nouveau programme de l'université. Elles ont passé presque toutes dans ces programmes eux-mêmes et nous avons eu la satisfaction de les entendre apprécier hautement par les hommes les plus autorisés, par M. Paul Bert dans l'admirable discours qu'il a tenu dans l'enceinte même de l'école, et tout récemment encore, par M. Jules Ferry, qui à la tribune de la Chambre des députés, comme il l'avait jadis fait à celle du Sénat, a rappelé avec éloge l'utile initiative prise par l'école alsacienne. Je me hâte d'ajouter que nous sommes bien loin d'avoir la prétention d'être arrivés au but final de nos efforts. Bien au contraire, nous sentons même souvent la nécessité de revenir sur des points que nous croyions acquis et sur lesquels ailleurs l'expérience commence à peine. En un mot, nous cherchons encore et sans doute, comme on nous l'a dit éloquemment, nous chercherons toujours. En reconnaissance des services rendus, Jules Ferry décidera l'attribution d'une allocation à l'école alsacienne pour la création de bourses d'études. Et dès 1890, une subvention nationale annuelle sera versée régulièrement par tous les gouvernements successifs, quelle que soit la couleur de leur fanion politique. Toutefois, malgré les bourses accordées à des garçons et à des filles à partir de 1924, c'est toujours à une caste limitée que les formules pédagogiques que l'école alsacienne pratiquait pourront s'adresser. Plus que jamais à partir des années 30, quand la gratuité de l'enseignement secondaire public aura été promulguée. Dès lors, l'école alsacienne ne sera pas seulement plus chère que l'école publique, elle deviendra l'école payante et chère, en face de l'école publique, primaire et secondaire, gratuite. Le vœu des fondateurs, de voir l'école et ses pareils, accessibles au plus grand nombre, sans considération de fortune, ne devait être exaucé que beaucoup plus tard, grâce au vote de la loi de Bray, d'aide à l'enseignement privé, du 31 décembre 1959. Suivant des modalités parfaitement définies, l'État, par cette loi, réalisait une double opération, plus contraignant que Jules Ferry. Le gouvernement s'assurait le contrôle pédagogique des établissements privés qui acceptaient de s'associer à l'État par contrat. En outre, il permettait, par un concours financier non négligeable à la grande majorité des Français, de bénéficier moyennant une contribution raisonnable de la liberté de l'enseignement. Désormais, cette liberté, dont le principe avait été maintenu par Jules Ferry et préservé par ses successeurs, ne devait plus être seulement celle d'ouvrir une école, mais pour l'ensemble des citoyens, celle d'en profiter. Ce devait être pour l'école alsacienne la chance après laquelle ses amis s'essoufflaient depuis la fondation. La diminution considérable des frais d'études allait entraîner rapidement un regain de fréquentation, particulièrement dans les familles d'anciens élèves. La possibilité pour la direction de choisir les meilleurs maîtres, y compris parmi les fonctionnaires du secteur public, sachant que leur traitement était intégralement pris en charge par l'État, et cela allait accroître encore les qualités de l'enseignement et de l'éducation, et mettre l'école alsacienne libérée enfin des contraintes financières à même de réaliser les objectifs pédagogiques de ses créateurs. Et terminons en rappelant le mot à la fois modeste et confiant du premier directeur de cette école pilote, un mot qui n'est autre qu'une incitation, une stimulation et en somme un mot d'ordre adressé à ses successeurs: nous chercherons toujours. Merci. Merci.
Je pense qu'il y aura quelques questions qui vont aller vers M. Acker.
Combien y a-t-il d'élèves à l'heure actuelle ?
1600.
Mais est-ce qu'il y a une partie d'enseignement spécifiquement alsacien ?
Non, mais dès la classe de 10e, on enseignait l'allemand. C'est-à-dire qu'il y a eu, dès cette époque-là, le bilinguisme en quelque sorte obligatoire à l'école. Ça ne veut pas dire que les élèves qui n'étaient pas alsaciens apprenaient bien l'allemand. Je n'ai pas dit ça. Hein.
Non.
Enfin, il fallait qu'à partir de la 10e, les élèves puissent connaître la langue de l'ennemi, comme on l'a dit. Voilà. Et puis aussi la langue d'un pays dont on admirait la culture. L'influence que les Allemands ont eue sur la pensée internationale. Et en pédagogie aussi, n'est-ce pas ? En pédagogie aussi. Voilà pourquoi, à l'origine, bien, on admirait les Allemands tout en les craignant. Oui,
monsieur. Le gymnase libre de Strasbourg, oui, semble être à l'origine, oui, de l'école alsacienne. À quelle histoire, enfin, rapidement, si vous pouvez nous indiquer, oui, eh bien, l'origine, parce que c'est très original de voir des idées pareilles apportées du côté allemand. En fait, ça n'a pas de rapport avec l'éducation.
Non, non. En réalité, il faut remonter au XVIe siècle. L'humaniste Jean Sturm, qui était un ami de Dubellay, un ami de Guillaume Budé, et était à Strasbourg. Et il a fondé là ce qu'on appelait une grande école, c'est-à-dire une école où on enseignait tout un peu à la manière dont Rabelais souhaitait que fût élevé le fils de Gargantua. Tout devait enseigner à la fois, aussi bien les lettres grecques, chaldaïques, judaïques, etc., la musique, l'éducation physique, les sciences, tout. C'était ce que la Renaissance souhaitait, des hommes complets, des esprits complets, à la manière de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange, c'est-à-dire des esprits absolument complets. Donc, il a créé cette école. Cette école a subsisté de cette façon-là, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'une manière très très généreuse et en même temps très proche de toutes les cultures, jusque à nos jours. Le collège actuel, qui a succédé, si vous voulez, au gymnase de Strasbourg, s'appelle le collège Jean Sturm, à Strasbourg. Et l'école alsacienne, elle a été créée par des gens qui avaient été élèves de ce gymnase, et gymnase ça veut dire collège, hein, de Strasbourg. Alors, à l'époque, le collège de Strasbourg, et encore aujourd'hui, sont, protestants. C'est appelé le collège protestant de Strasbourg, le gymnase protestant de Strasbourg, et aujourd'hui, on dit le gymnase Jean Sturm, simplement, sans signaler, mais néanmoins, il est quand même sous l'obédience des autorités protestantes. Alors que les personnes qui ont créé l'école alsacienne ont voulu complètement se dégager des questions confessionnelles. C'était des gens qui croyaient, comme l'a très bien exprimé Paul Bert, mais qui se voulaient absolument neutres sur ce plan-là. On n'enseignait pas la religion à l'école alsacienne. On la pratiquait, mais on n'enseignait pas. Et il y a eu à l'école alsacienne, depuis l'origine, des gens de toute tendance idéologique, politique. Au fond, ce qui intéresse la direction de l'école alsacienne et ses professeurs, ce sont des enfants qui, eux, n'ont pas d'étiquette. Donc, on entend souvent dire que l'école alsacienne est une école protestante. C'est faux dès l'origine. Et quand on leur disait à cette époque-là qu'ils étaient protestants, ils considéraient même presque cela comme une injure. Parce qu'ils ne voulaient pas, précisément, être considérés comme des sectaires.
Oui.
Oui, madame.
Est-ce que le ministère surveillait les programmes? Vous avez dit que le latin était supprimé dans les classes primaires.
Oui.
Ils ont pris la décision sans qu'il y ait d'opposition. Alors,
eh bien oui, d'enseignement libre, notamment à l'école, on faisait ce qu'on voulait. Le directeur, on lui demandait simplement d'être bachelier. Et la loi Fallou de 1830 exige, pour que l'on ouvre un établissement scolaire, que l'on ait le diplôme du bac. Un point, c'est tout. Et on fait ce qu'on veut. Et puis on dit aux parents, voilà ce que nous faisons. Nous n'enseignons pas ceci, nous enseignons cela, de telle manière, de telle méthode. Le latin, à l'époque, était enseigné dès l'école primaire, et le grec aussi. Voyez. Alors évidemment, c'était très lourd pour des enfants, puis elles comprendre. Et au fond, l'idée de ceux qui ont créé l'école ancienne était de leur donner une base très importante de français, et ne commencer le latin qu'à partir de la sixième. Et on s'est aperçu qu'effectivement, après avoir fait 2 ans de latin, eh bien, les élèves, eh bien, vous voyez que lorsque Jules Ferry est venu, il a vu qu'en 4e et en 3e, les élèves étaient très forts. Parce qu'ils avaient une bonne base de langue maternelle, et que là-dessus, on avait construit intelligemment l'enseignement des humanités.
Pourquoi la loi Fallou paraît-elle encore aussi rétrograde dans l'esprit de...
Ah, mais dans l'esprit! Non, mais elle n'est pas du tout rétrograde. La loi Fallou est une loi qui d'ailleurs n'a jamais été abolie, précisément parce qu'elle n'est pas rétrograde. C'est une loi qui permet à un établissement scolaire d'être libre, à son directeur d'être responsable. C'est lui qui engage les professeurs, et c'est lui qui a les rapports avec les familles et avec les élèves. Ça, c'est extrêmement important. Dans les lois actuelles sur l'enseignement, un chef d'établissement Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable. Bien sûr, il est responsable. Mais enfin, il n'est pas aussi responsable que l'était le personnage en question, puisque tout reposait sur lui.
De quand date le baccalauréat?
De Napoléon.
Napoléon.
Ah, Napoléon. Oui. Dès l'origine de l'école alsacienne, M. Rieder, le directeur, était contre l'organisation du baccalauréat telle qu'il existait. Et il a été de ceux qui ont demandé qu'il y ait un livret scolaire qui puisse faire tenir compte des travaux qui se faisaient dans l'établissement scolaire. Et ça a été accepté. C'est une des choses que l'école alsacienne a apporté, ça aussi, à l'université. Depuis cette époque-là, moi j'ai parlé uniquement, n'est-ce pas, de l'origine et de ce que l'école alsacienne avait apporté à l'époque de Jules Ferry, mais depuis cette époque-là, l'école alsacienne a apporté énormément de choses. En faisant des expériences, nous chercherons toujours, et en effet, on cherche toujours. Vous savez le mot de Picasso qui disait que lui ne cherchait pas qu'il trouvait, hein? Mais une fois qu'on a trouvé des idées, il faut quand même expérimenter. Et puis les choses sont tellement variables en fonction des élèves. C'est comme si l'on disait que n'importe quel joueur de tennis est capable de jouer de la même manière, n'est-ce pas? Bon, et le joueur de tennis, il joue en fonction de ce qui est en face de lui. Et le professeur qui fait un cours, ou le conférencier qui parle à des amis, eh bien, il ne parlera pas de la même manière à cet auditoire qui est là et à tel autre. Je crois que c'est bien lorsque c'est le dialogue qui crée l'animation de la classe, et que le professeur a à répondre aux questions des élèves.
Oui.
Oui, madame. Vous avez dit que l'école alsacienne...
Vous voulez parler un petit peu plus fort, parce qu'on vous entend.
Oui. À quel moment? Ça date de quelle époque?
De l'origine.
Et ça s'est arrêté?
On ne peut pas dire qu'on ait continué d'enseigner l'allemand, comme on enseignait à ce moment-là. Petit à petit, les choses ont changé. Il est arrivé, et sous ma direction, qu'à plusieurs reprises, nous avons fait d'expérimentations, d'enseignement de la langue, en particulier de l'anglais, dès les petites classes. Hein. Bon, et nous avons vu les difficultés que ça représentait, et les expériences que nous avons faites, une après l'autre, nous y avons renoncé. Hein. Nous ne savions pas le faire. Et je vois bien que, à partir du moment où le ministère donne une injonction, vous enseignerez l'anglais à partir de la classe de n'importe 8e. Bon. Alors on le fait, n'est pas au garde à vous. Oui. Hein? Bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enseigne bien? Est-ce qu'on fait bien les choses? Je ne suis pas sûr qu'on le fasse bien. Voyez, ce sont des choses qu'il faut voir avec une très longue expérience. Oui.
Pardonnez-moi, l'instruction civique, on va l'enseigner maintenant à partir de la première ou même en terminale. C'est un peu curieux.
À plusieurs reprises, les ministres de l'Éducation nationale ont dit « Il faut renouer avec l'instruction civique ». Ça veut vraiment dire qu'on y a renoncé, hein, et que les professeurs d'histoire n'ont plus été capables d'enseigner l'instruction civique. Et pourquoi? Or, dans les programmes, il y a toujours eu un programme d'instruction civique, qui était quelquefois une demi-heure par semaine, ça veut dire une heure tous les 15 jours, enfin bon, peu importe la durée. Et que faisaient les professeurs d'histoire? Comme l'instruction civique ne figure pas au baccalauréat, donc elle n'a pas d'importance, ne sont importantes que les matières qui ont une cote au baccalauréat. L'école n'a pas formé un citoyen, l'école a formé un bachelier. Je peux dire que l'école alsacienne, nous faisions l'instruction civique, nous, à partir d'un circuit fermé de télévision que j'avais fait installer à l'école. Tous les mois, pratiquement, les élèves avaient obligatoirement une séance d'instruction civique sur un sujet qu'ils avaient choisi en classe. Et ils avaient choisi non seulement le sujet, mais aussi la personnalité qu'ils allaient interroger. Alors, ou bien l'un des parents d'élèves connaissait M. X et le contactait, ou bien on nous demandait de le faire, et c'est nous qui le faisions. Alors, on contactait quelqu'un qui était non seulement compétent, mais qui vivait de la chose dont il allait parler. Car l'instruction civique, c'est quand même quelque chose de contemporain. Mais ces gens-là, quand on les interroge, vous comprenez, ils ont une qualité d'émotion qui frappe tout le monde. Et nous avons fait venir des gens de tous les horizons confessionnels et politiques. Et on a interviewé aussi bien M. Mitterrand que M. Rocard, que M. Giscard d'Estaing. Tous ces gens-là ont accepté de recevoir les élèves et de venir parler chez nous. M. Mendès France est venu plusieurs reprises. Et dès qu'il se trouvait devant des enfants, qui leur posait des questions. En ce qui concerne les télévisions, ça veut dire une émission, voyez-vous, et les cinq classes du niveau étaient dans des classes et suivaient pendant une heure sur l'écran. Eh bien, ces gens-là étaient très heureux de voir des jeunes s'intéresser à la vie quotidienne du pays, aux questions sociales et autres, car toutes les questions qui étaient posées par les élèves prouvaient qu'ils se passionnaient pour ce qui était leur présent et leur vie quotidienne. Alors ensuite, au bout d'une heure, la personnalité allait au foyer des élèves, et là venait qui voulait. C'était devenu l'une des matières les mieux perçues et les plus intéressantes de notre curriculum scolaire. Frédéric Rieder avait fait une thèse sur Comenius, qui est un grand pédagogue tchèque, n'est-ce pas ? Comenius avait comme slogan, si vous voulez, res non verba, des choses, pas des mots. Tout à l'heure, j'ai lu, l'on parlait des objets qui étaient sur les murs, l'enseignement par les yeux. Hein ? Ça veut dire l'enseignement qui n'est pas un enseignement simplement cérébral. Un enseignement qui est fait par les sens, n'est-ce pas ? Les choses et pas les mots. Alors le mot est évidemment indispensable, mais tant qu'on n'a pas pénétré la chose par elle-même, ben, tout le reste, c'est la littérature, comme on dit.
Par rapport à la pédagogie, là, ce que vous avez dit, les groupes, ça me rappelle beaucoup l'école nouvelle. Alors, je voudrais savoir.
Ah, bien sûr, madame. Mais tout à fait. Voilà. Mais tout à fait.
Les enfants étaient dans une école nouvelle.
Mais absolument. L'école ancienne était une école pilote, c'est-à-dire une école nouvelle.
Dans la vie, je me rappelle que mes enfants partaient avec leur petit magnétophone pour interroger les gens sur leur travail.
Bien sûr.
École nouvelle où ils étaient, ils appliquaient aussi les méthodes de freiner. Alors, ça,
oui, mais je comprends.
C'est
donc... Imprimerie, etc. Oui, bien sûr.
Effort par rapport à soi-même. Et en fait, les miens étaient, je me rappelle très bien, étaient dans leur classe. Ils avaient donc leur travail personnel qu'ils faisaient. Et l'enseignant passait. Si ça n'avait pas été, on revenait en arrière. Ils prenaient rendez-vous avec l'enfant et ils revenaient en arrière.
Bien sûr.
Sur les connaissances.
Alors ça, vous voyez, nous ne faisons pas systématiquement comme ça. Vous comprenez ? Parce que nos classes... Ce sont quand même des classes assez nombreuses. Je veux dire, 30 élèves. Oui. Tandis que si l'on peut avoir des classes moins nombreuses... Voilà pourquoi, lorsque nous faisions le travail indépendant, les élèves étaient répartis par groupes de 6 ou 7. Et alors là, le professeur pouvait parler à 6 ou 7. Nous n'allions pas aussi loin que les écoles nouvelles le font. Ce sont des facilités d'organisation de travail qui existent dans les écoles libres.
Est-ce que vous auriez eu l'amabilité de dire un mot du nom des salles de classe à l'école alsacienne ?
Ah oui. En 1955, quand nous avons célébré le 80e anniversaire de l'école alsacienne, j'ai demandé que les salles soient pourvues d'un nom, parce que c'était plus joli, et que, en même temps, ça exaltait le souvenir d'un ancien élève ou d'un membre du conseil d'administration ou d'un professeur. Ce sont des noms de gens qui avaient marqué. Non, les élèves, il valait mieux qu'ils soient effectivement connus. Mais les professeurs, c'est quelquefois des gens qui ne sont pas connus, mais qui avaient eu vraiment un grand impact, une grande autorité, une grande influence sur les élèves. Ce n'est pas moi qui ai choisi les noms. J'ai demandé aux anciens élèves et au conseil d'administration, qui était composé de personnes âgées, qui avaient été élèves à l'école autrefois, eh bien de choisir des noms de professeurs. Qu'est-ce que ça peut faire aux élèves de savoir qu'ils ont dans la classe un tel ? Si le professeur n'a pas pris la peine de s'informer et de le leur dire, ça ne sert pas à grand-chose. De même que, vous savez, il faudrait, chaque année... Il faudrait réunir les élèves nouveaux et leur expliquer ce qu'est l'école alsacienne. Alors, nous avons des professeurs qui le font, d'autres ne le font pas.